Alors je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous le voulez bien, et nous allons lire ensemble eh bien, ce chapitre 11 d'Ésaïe. Je vais vous en faire la lecture, tout au moins jusqu'au verset 10. Je lis. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, et les petits et leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Ésaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Prions Dieu. Père éternel, nous voulons encore te louer, te rendre grâce pour l'occasion que nous avons de nous tenir devant ta parole qui est la vérité. Tu as dit « Sanctifie-les par ta parole » et Seigneur, sanctifie-nous par elle ce matin, permets qu'elle puisse pénétrer dans nos cœurs, que nous puissions apprendre à mieux te connaître. Accorde-nous ton Esprit Saint, Seigneur, pour que justement notre âme, notre esprit puissent être éveillés à la connaissance de ton nom. Pour tout cela, nous te bénissons dans le beau nom de Jésus. Amen. Voilà ici donc ce texte d'Ésaïe chapitre 11 qui nous parle de la renaissance du royaume d'Israël. Il nous parle de l'émergence, j'oserais même dire, d'un nouveau royaume. Ici, la description qui nous est faite, même d'ailleurs, de ce royaume est absolument, j'oserais dire, féerique. On se croirait dans un conte de fées avec des personnages, des animaux en l'occurrence, qui cohabitent alors qu'on aurait tendance à les voir s'opposer, à se déchirer entre eux. Il est écrit « le loup et l'agneau habiteront ensemble ». C'est pas commun que de voir un tel décor. En fait, il s'agit d'un royaume de paix qui est dépeint ici. Un royaume tel que nous n'en avons pas connu. Et ceci est d'autant plus important dans ce texte que nous voyons que Ésaïe venait juste de faire avant la description d'un temps au contraire où Dieu visitera Israël, visitera Juda et jugera cette nation à cause de ses péchés. Dieu a vu l'immoralité, Dieu a vu la décadence dans ce peuple. Et quand vous lisez justement Ésaïe chapitre 1, 2, 3, 4 et 5, vous voyez à quel point Dieu fait un inventaire de la corruption qui a gagné le peuple et à quel point le jugement qu'il attend, eh bien, n'est pas un jugement trop sévère à cause de ses égarements. Quand je lis d'ailleurs Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5, souvent, j'y vois la description de mon propre pays, d'ailleurs. Mais ce qui est précieux avec le Seigneur, c'est que s'il juge son peuple, il aime aussi à le relever, à le redresser, à le renouveler. Il accorde une seconde chance. Et même, il le dit ici, un petit peu plus loin dans ce texte que nous avons vu au verset 11, « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. » C'est précieux de voir cela. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Quand on a tout cassé par sa propre faute, qu'on ne mérite absolument pas d'être relevé, le Dieu de grâce, le Dieu de l'Évangile, renouvelle toutes choses. C'est pas merveilleux cela ? Voilà le message que nous voulons prêcher. Alors j'aimerais vous parler de ce royaume de paix. Nous allons parler de son émergence, en l'occurrence de sa naissance, nous allons parler de sa puissance et de son étendue. Parlons de son émergence au verset 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. » Le tronc d'Isaïe. Ici, le prophète emploie un vocabulaire imagé, une métaphore. Ah oui, il faut que je tourne. Paf. Pour que vous suiviez. Un tronc. Littéralement, il s'agit même d'une souche. Une souche d'arbre. Pour nous parler de ce qu'il est arrivé à Juda. Quand vous voyez une souche d'arbre, vous pouvez vous dire, tiens, ici, il y a dû avoir un bel arbre. Plus il est large, plus vous voyez les cercles concentriques à l'intérieur, plus vous pouvez apprécier le nombre de ses années. Puis vous regardez à droite, à gauche, vous regardez l'écorce, oh, c'était un chêne. Oh, oh. Ça devait être un arbre magnifique. Vous voyez l'espace où il est, où il était tout au moins, et vous dites, oh là là, ici il devait apporter beaucoup d'éclat. Hein, et... Oui, mais il n'est plus. Oui, mais il n'est plus. Et cet arbre coupé, ce tronc d'Isaïe, n'est plus. Dieu l'a jugé. Ici, ça nous parle de cette diaspora où, Dieu a envoyé le peuple de Juda en captivité à Babylone à travers le jugement de Nebuchadnezzar qui est venu, qui a détruit le pays, qui a détruit la ville de Jérusalem, qui en a détruit le temple. Plus rien. L'arbre a été rasé. Ce qui est touchant, c'est que quand vous regardez au chapitre précédent, regardez les versets qui précèdent, là au chapitre 10, versets 33 et 34, « Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Il renverse avec le fer les taillis de la forêt et le Liban tombe sous le puissant. » Ici, il est question du jugement de l'Assyrie. Encore cette métaphore avec les arbres, des arbres élevés, des arbres magnifiques, qui parlent de la prospérité d'une civilisation. Mais à cause de sa corruption, elle est abattue. Vous savez, on pense parfois que notre civilisation, la France, avec ses beaux monuments, avec son histoire, tout est pérenne, tout cela durera et durera encore. Mais vous savez, Dieu peut raser tout cela. Je me souviens d'un film qui a été fait par Dwight Moody, enfin les films Moody. Il y avait un film qui s'appelait Les Cités Désertées. Vous avez peut-être souvenir de ces films-là. Il était question des civilisations qui nous ont précédés et qui se croyaient toutes éternelles. Elles ont toutes été rasées. Serait-ce que la civilisation romaine antique, les Phéniciens, les Incas, les Mayas, les Aztèques et tous ces peuples qui ont été tant prospères sur la terre, rasés à cause de la corruption. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. C'est ce qui menace aussi notre pays. C'est ce qui peut menacer aussi notre vie. Mais dans notre histoire, ce qui est passionnant, c'est que de ce tronc,
une pousse,
un rameau en sort. La vie reprend. Une once d'espérance, quelque chose auquel on ne prendrait pas tellement attention. Quel est ce rameau? Ce rameau, eh bien, c'est Zorobabel. Zorobabel, c'est ce descendant, justement, du tronc d'Isaïe qui est sorti de Babylone avec les premiers hommes qui sont retournés où? Eh bien, vers la terre d'Israël. Et on voit dans le livre de Zacharie, eh bien, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Et effectivement, Zorobabel a été un des artisans de la renaissance de Juda. Mais est-ce que cette prophétie ne signifie que cela? Non. Cette renaissance dont Dieu parle, elle nous amène bien, bien plus loin, dans un royaume encore plus impressionnant. C'est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, dans Ésaïe, et quand vous avez feuilleté les pages précédentes, vous avez vu qu'en Ésaïe, chapitre 7, verset 14, Dieu donnait déjà par Ésaïe une prophétie sur la venue du Messie. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils, et ce fils, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on lit en Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 5, ce beau texte encore que l'on aime à élever aussi au temps de Noël, « Voici un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, et la domination reposera sur ses épaules. » Voyez-vous, dans l'évangile de Matthieu, il est écrit au sujet de Jésus, il sera appelé le Nazaréen. Et vous savez que Nazaréen veut dire en hébreu, veut dire en français plus précisément, rameau. Il sera appelé le rameau. Et souvent, quand on parle de ce que Jésus se rappelait le Nazaréen, bien c'est parce qu'on s'est dit, oui, il a grandi, effectivement, il a été élevé dans la ville de Nazareth. Mais pas seulement, c'est aussi parce qu'il est le rameau qui sort du tronc d'Isaïe. Il est le fils de David attendu et qui doit régner sur la terre. Et effectivement, dans le temps de Noël, un rameau est sorti du tronc d'Isaïe. Marie, Joseph, tous deux descendants de la postérité de David, sont descendus jusqu'à Bethléem, la cité de David, et là, dans une étable, là, d'une manière insignifiante, là, sans prêter attention, un rameau a surgi. Et ce rameau devait donner cette église de Jésus-Christ aujourd'hui. Ce rameau devait donner un royaume, et le Seigneur le disait par la bouche de Daniel, un royaume qui ne passera jamais. Juste par cet enfant qui venait de naître. Alors voilà, eh bien, ce rameau qui surgit, cette émergence de ce nouveau royaume. Mais regardons maintenant la puissance de ce royaume. Et on le voit à partir du verset 2. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point selon l'apparence. » Toute une description eh bien, du règne de ce Messie. Cette puissance, comment la dépeindre? Hannibal avait en son temps des éléphants pour manifester sa puissance. Alexandre le Grand avait ses phalanges avec ses lances qui étaient immenses et qui renversaient tout sur leur passage. César avait ses légions bien organisées avec ses tortues qui avançaient. Mais Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, quelle est son armée, quelle est sa puissance? Eh bien, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et la puissance de Dieu, nous la voyons manifestée par l'Esprit. D'ailleurs, vous voyez dans ce texte, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit éternel, lui. Vous avez même une manifestation de la Trinité dans ce verset. Vous vous souvenez, vous avez lu Zacharie et les questions de Zorobabel dont je vous parlais un instant. Zorobabel qui lui aussi a été une forme de rejeton. Zorobabel quand il a conduit le peuple de Babylone jusqu'en terre de Judée, il a pu se demander comment il pourrait faire cet exploit. Mais dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Et les enfants d'Israël sont sortis de Babylone, non pas avec des boucliers, avec des lances, mais par la puissance de Dieu. Parce que quand Dieu permet des choses, il desserre les liens. Quand Dieu permet des choses, il ouvre des portes. Quand Dieu permet des choses, il ouvre un chemin. Comment Moïse a-t-il pu arracher tout un peuple de l'esclavage de l'Égypte, sinon par la puissance encore de l'Éternel ? L'Esprit, chers amis. Souvent on se dit, mais il nous manque quelque chose, des moyens humains. Mais l'Esprit, l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu repose sur son peuple, Dieu fait des choses extraordinaires. Napoléon Ier a pu dire ceci. Il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit. À la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. Bien pensé, quand même. Il était clairvoyant. Et Jésus-Christ, justement, est ce prince de la paix qui vient par la puissance de son esprit a accompli toutes sortes de choses. Quand il a commencé son ministère, il s'est présenté dans une synagogue et là, il a lu le prophète Ésaïe, Ésaïe 61, versets 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel repose sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. » De l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel repose sur moi, dit le Seigneur. Parlant de Jésus, l'apôtre Paul a pu dire « Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. » Il a encore dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Toute plénitude, toute force, toute puissance se tenait dans Jésus, marchant au milieu de son peuple. Et c'est ainsi que son royaume s'est manifesté. Nous voyons cette plénitude de l'Esprit manifestée par six termes pour l'évoquer. Ils sont mis là, deux à deux, pour évoquer différentes choses. Vous avez le domaine de la réflexion, la sagesse et l'intelligence. Le discernement, en fait, du vrai et du faux, la compréhension de la vraie nature des choses, l'œuvre de l'esprit. Voilà ce qui nous manque. Aujourd'hui, nous ne comprenons plus la vraie nature des choses. Nous ne savons plus revenir aux sources pour comprendre. L'Esprit de Dieu nous y conduit. Jésus a 12 ans, se trouve dans le temple, il discute avec les docteurs de la loi, et tous sont frappés par sa sagesse et son intelligence. Voilà notre Seigneur. Il y a le domaine des activités, avec le conseil et la force. La force, vous savez, désigne cette énergie, cette persévérance pour aller au succès dans l'exécution des plans, justement, qu'on s'est formés. Laissez-moi vous citer encore un célèbre personnage de notre pays, Clémenceau. Clémenceau disait ceci, « Il faut savoir ce que l'on veut, le savez-vous. Quand on le sait, Il faut avoir le courage de le dire. Le dites-vous. Et quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Le faites-vous. Jésus-Christ, notre Seigneur, a été animé de cette force qui se caractérise par un courage dans les choses eh bien, qu'il entreprenait. Et pour évoquer la fermeté et la détermination de notre Seigneur, voici ce que Ésaïe a pu partager dans le chapitre 50 et au verset 5. « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. » Et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Sachant que je ne serai point confondu. Vous savez, Christ, marchant jusqu'à la croix, a rendu son front dur comme le caillou. C'est exprimer cette détermination à aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il a enduré contre sa personne et ne s'est point lassé, l'âme, fatiguée, pour aller jusqu'à mourir sur la croix, pour porter nos péchés. C'est lui qui a dit, il est un baptême dont je dois être baptisé, et il me tarde de l'accomplir. Et ce baptême, c'était celui de sa propre mort et de sa résurrection. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ s'est armé de force, de courage, pour accomplir la volonté de son Père. Et puis, nous voyons encore dans notre texte, de manifestation de l'esprit dont il est oint. La connaissance et la crainte de l'Éternel. Connaissance et crainte de l'Éternel, c'est ici le domaine de la foi, le domaine religieux. C'est l'esprit qui nous tient en communion avec notre Créateur. Deux termes pour évoquer notre relation avec Dieu. C'est Calvin qui disait que notre foi repose sur de la connaissance. Elle n'est pas faite d'illusions, mais de connaissance. Et le Seigneur était en relation avec son Père. Il dit ceci dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, « Le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Tout traduisait en Christ cette communion spirituelle avec son Père. Quand il est écrit ici, « Il respirera la crainte de l'Éternel », littéralement c'est « Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel ». Et vous savez, cette notion de crainte de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, évoquait la foi dans le Seigneur. Voilà cet esprit qui animait notre Dieu. Voyez encore d'autres descriptions, on pourrait tous les éplucher les unes après les autres, mais regardez, il est écrit, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Les rois, les princes de ce monde, les dirigeants se prononcent sur les apparences, sur un oui-dire, mais ils ne savent pas juger le fond des choses, ils ne connaissent pas le secret des cœurs. Mais Jésus pouvait se tourner devant des pharisiens et des scribes et puis les surprendre en leur disant « Mais pourquoi de telles pensées dans vos cœurs ? » Imaginez-vous. Plus tard, il s'est approché de Judas quand ils étaient dans la chambre haute et il lui a dit « Mais mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. » Et Judas a pu être même repris dans son cœur parce que rien n'était caché devant la face du Seigneur. Son jugement est vrai à notre Dieu, parce qu'il nous connaît. Il nous connaît dans nos faits, dans nos paroles, mais il nous connaît aussi même dans nos pensées et dans les motivations de notre propre cœur. Il ne jugera point selon les apparences. Il jugera le pauvre avec équité. Que de torts ont été faits aux plus petits, Et dans notre texte, au chapitre 3 et au verset 14, j'aimerais vous lire ces quelques versets. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. On aurait l'impression d'entendre Jean-Luc Mélenchon. N'est-ce pas? Combien j'aimerais qu'il entende ces paroles. C'est le vrai socialisme équitable. Oui, c'est Christ qui vient et qui s'occupe des plus faibles et qui les connaît tous pour rendre à chacun selon ses œuvres. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses, nous dit le psaume 34. Voilà donc ce royaume conduit bien par notre Seigneur, ce royaume qui est apparu dans la faiblesse, ce royaume qui se manifeste par la puissance de l'Esprit. Mais jusqu'où ira-t-il ce royaume? Jusqu'où s'étendra-t-il? Eh bien, laissez-moi tourner la page. Ah, pardon. C'est fait. L'étendue, eh bien, de ce royaume. Plusieurs remarques peuvent être faites encore dans ce texte, mais ce royaume s'étendra à toute la création. On voit au verset 6 des descriptions qui sont étonnantes. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Voilà quelque chose d'étonnant. Il est question d'une manifestation à venir du royaume de Dieu lors de son avènement, quand il règnera aussi, eh bien, visiblement sur la terre. Nous ne savons pas comment toutes ces choses, eh bien, se feront. Mais nous savons une chose, c'est que dans ce royaume qui est encore aussi attendu, qui est à la fois là et encore à attendre, eh bien, nous voyons que la création tout entière sera pacifiée. Nous voyons que les antagonismes ne seront plus, que les rapports de force auront disparu, que les oppositions de nature auront cessé. Ceux qui ne pouvaient demeurer ensemble vivent maintenant ensemble. Étonnant, le loup et l'agneau habiteront ensemble. Que de loups dans ce monde, que d'agneaux. Et ils vivront ensemble. L'Écriture nous dit d'ailleurs que la création tout entière soupire. Elle soupire et elle souffre les douleurs de l'enfantement parce qu'elle attend la révélation, le retour, la manifestation en gloire de notre Roi, du Seigneur des Seigneurs. Mais on voit que toute la création, eh bien, sera atteinte par ce royaume, mais toute la terre aussi. Dans ce passage, nous voyons au verset 9, « La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Et c'est vrai que, même si parfois dans notre pays, nous nous plaignons de voir que, eh bien, le nom de Jésus-Christ est de moins en moins enseigné, malgré tout, ce royaume s'étend. Voyez comme la Bible est traduite par toute la terre, que des civilisations qui étaient complètement hostiles et fermées à l'Évangile se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. Toute la terre. Mais pour l'instant, ça se répand, mais il est question ici d'une surabondance, d'une universalité de la connaissance de Christ et d'une plénitude de la connaissance de Christ, comme des océans qui viendront submerger le fond des mers. Oh oui. Le christianisme, vous savez, a de beaux jours devant lui. Le christianisme a de beaux jours devant lui. Et parfois, on se dit, tiens, oh là là, notre religion est en perte de vitesse. Pensez-vous. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ce royaume s'étendra à tous les peuples. Il élèvera une bannière pour toutes les nations. Voilà ce que nous voyons. Vous pensez que, à ce temps de Noël, eh bien, ce sont les mages d'Orient Donc, hommes d'entre les nations qui sont venus les premiers, voilà, pour adorer le Seigneur. Leur bannière, c'était cette étoile qui les attirait et qui est venue se poser au-dessus de Bethléem. Et ils sont venus pour adorer. Plus tard, ce sont des Grecs qui sont venus voir André et Philippe en disant « Nous voudrions voir Jésus !» Et Jésus s'en est ému profondément. Mais avec la Pentecôte, Dieu a ouvert la porte de la foi à toutes les nations. Et ici, eh bien, nous représentons ces nations qui sont venues à l'Évangile. Oh, je ne vous demanderai pas combien y a-t-il de nations représentées ici. Mais n'est-ce pas une chose glorieuse de se rendre compte que c'est cette connaissance de Dieu qui était pendant longtemps réservée au peuple d'Israël est maintenant étendue à toutes les nations. Et Dieu a dit, eh bien, que de ceux qui n'étaient point un peuple, il en a fait son peuple. Et nous sommes ce peuple ce matin. Voilà donc ce texte qui nous parle de ce royaume de notre Seigneur qui s'étend d'âge en âge, de génération en génération et qui ne passera jamais. Ce royaume, eh bien, il a commencé à Noël. Et quand on célèbre la fête de Noël, parfois certains vous disent « Oui, oh, doit-on fêter Noël ou pas, faut-il ou non, parce que dans la Bible, il n'y a pas de fête de Noël. » Mais Noël, chers amis, c'est la plus grande fête. Certes, il y a Pâques qui se profile derrière, mais c'est l'exaucement de toutes les prophéties, de toutes les attentes. Nous l'attendions depuis 4000 ans, quand nous chantons ces cantiques. Et Noël, justement, c'est ce souvenir de ce rameau qui sort du tronc d'Isaïe, ce rameau qui devient cet arbre magnifique, qui devient ce royaume dans lequel le Seigneur nous a associés. C'est un royaume de paix. Un jour, Christ l'établira réellement sur toute la terre. Et il sera en plénitude sur toute la terre. Mais en attendant, Dieu veut établir ce royaume dans nos cœurs. Il veut aussi qu'il y ait un rameau qui naisse dans notre cœur. Une naissance, quelque chose qui émerge, qui prend racine dans notre être profond, la connaissance de Jésus-Christ. Un peu comme nous l'avons entendu tout à l'heure par nos deux sœurs, comment elles ont découvert le Seigneur. Ce royaume, eh bien, il passe aussi par une découverte d'une communion intime par l'Esprit de Dieu qui doit nous habiter. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Est-ce que l'Esprit de Dieu repose sur vous? Avez-vous connu vraiment le Seigneur Jésus-Christ? Nous avons parlé de l'étendue d'un royaume, mais c'est aussi la portée d'une vie qui est manifestée ici, dans ce texte. Une vie qui a tout d'un coup un sens, qui n'est pas vécue pour rien, et qui aura un retentissement au-delà même de notre temps, de notre passage sur cette terre. J'ai été frappé en entendant tout à l'heure ma nièce ébranlée par le souvenir de ce frère qui a été parmi vous, Jonathan, et qui n'imaginait pas qu'au-delà de sa propre vie, sa vie parlerait encore. Une vie qui compte, chers amis. Puissions-nous ne pas mourir en vain et avoir perdu nos jours alors qu'ils auraient pu être utiles à quelque chose. Voilà ce royaume, Dieu veut l'établir premièrement dans notre cœur, et ma prière, c'est qu'il le soit dans le cœur de chacun d'entre vous. Amen.